On essaye de finir avant les quarts, mais aujourd'hui on finira à midi.
Merci.
Mais ce sera pour la gloire du Seigneur.
C'est bon, généralement. Si, vous m'entendez ? Ouais, ça arrive. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est la première fois que je vais prêcher avec mes deux mains. J'ai fortement mobilisé pour qu'on fasse ça dans l'église, mais ça va être sympa. Alors, voilà le thème de ce matin. Encouragez-vous, édifiez-vous. Un vaste thème, mais qui est, je trouve, tout à fait dans l'esprit de ce qu'on a déjà entendu ce matin, dans l'esprit de ce qu'on a déjà dit. Vous imaginez là, quand vous allez faire vos courses, vous imaginez votre sac de courses avec plein d'objets, plein d'ingrédients, plein de trucs qui sont bien différents là-dedans et qui sont tous dans le même sac de courses. On pourrait des fois avoir le sentiment que l'Église, c'est un petit peu ça. On est voilà, tous différents et tous ensemble au même endroit. Mais Joël, il nous a rappelé la semaine dernière que c'est plus que ça. L'Église, on fait tous partie d'un même corps. Ça fonctionne ? Yes, excellent. On fait tous partie d'un même corps. Et faire partie d'un même corps, c'est bien plus qu'être tous dans le même sac de courses et être tous différents. Ça veut dire qu'on est aussi tous reliés les uns aux autres. Ça veut dire qu'on est tous interconnectés les uns aux autres. Et il y a une dimension beaucoup plus grande à être un corps qu'à être des ingrédients dans un seul et même sac. Vous avez l'image ? C'est bon ? Et puis il y a autre chose de rassurant, c'est de se dire qu'après bientôt 40 ans, je me présente devant vous ce matin et que je ne suis pas en train de marcher à quatre pattes avec une couche aux fesses. J'ai grandi. Et vous avez tous grandi. Et ça nous parle aussi d'une chose, ça nous parle que le corps, il est en croissance. Le sac de course, c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose qu'on va prendre, qu'on va déplacer, on va mettre des choses dedans, on va en sortir, on va faire des choses avec, mais c'est statique, ça reste un sac de course. Et si justement Paul utilise cette image du corps, c'est bien parce que la dimension de croissance du corps, c'est quelque chose qui est important. Il dit, nous ne sommes pas censés rester des bébés à nous nourrir de lait, on est censé grandir, manger de la viande, devenir adulte spirituellement. Et ça, c'est quelque chose qui est individuel, on est d'accord, on a tous une responsabilité individuelle par rapport à notre croissance. Mais le fait d'être encore, dans un corps, ouais, merci pour le son, j'avais l'impression que ce n'était pas super, hein, ça résonne un peu. Sinon, je prends l'autre micro, hein, pas de souci. Le fait d'être dans un corps nous donne une responsabilité mutuelle de faire que l'autre grandisse. Et c'est ça toute la différence. C'est ça la différence entre un sac de course et puis un corps. C'est ça la différence entre un truc qui est statique et un truc qui doit grandir. Et je suis donc doublement responsable. Responsable de mon développement personnel, mais je suis aussi responsable du coup du développement de celui qui est à côté de moi. Dans Éphésiens 4, versets 15 et 16, Paul nous dit... En disant la vérité dans l'amour, c'est important ça, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifier, c'est la même chose que édifice. C'est une construction, il s'édifie, il grandit. Et donc, voilà pourquoi je voudrais qu'on parle ce matin de édifier vous. Vous savez qu'on est dans notre série où on aborde les uns les autres, et tous les uns les autres qui peuvent exister dans la Bible, on ne les fait pas de manière exhaustive, mais on en balaye quand même vraiment pas mal. Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur celui-là, édifier vous, construisez vous ensemble. Et bon, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le processus de croissance, mais je voudrais ce matin qu'on s'arrête particulièrement sur un, c'est l'encouragement. Parce que l'encouragement, je crois que c'est une des clés qui nous font rentrer dans l'édification du corps et dans la croissance mutuelle. C'est vraiment un aspect particulier du corps. Et donc je voudrais qu'on balaye un petit peu ensemble ce matin, si vous le voulez bien, assez rapidement, qu'est-ce que c'est qu'encourager finalement ? Parce que c'est un mot qu'on utilise énormément, c'est un mot que le monde il utilise aussi, mais finalement, encourager, c'est quoi concrètement ? Et donc, on va s'appuyer sur le verset que je viens de vous lire juste avant pour parler en premier, encourager, c'est parler avec vérité. Paul, il nous dit, en disant la vérité dans l'amour. Ça commence par là, en disant la vérité dans l'amour. Et c'est à partir de là qui a ensuite l'édification mutuelle du corps, en disant la vérité dans l'amour. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Il nous le dit un tout petit peu plus loin dans Éphésiens 4, toujours, mais au verset 25. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, il est fort là-dessus, hein, dites à chacun la vérité avec votre prochain, à votre prochain, pardon, car nous sommes membres les uns des autres. Parlez la vérité les uns aux autres. Parlez avec vérité. Qu'est-ce que ça implique ? Ça demande d'être honnête les uns vis-à-vis des autres. Être honnête, ne pas cacher les choses. Et ça veut dire deux choses, à mon avis, un équilibre à avoir entre deux choses. La première partie que je vous ai mise sur le côté, c'est ce qu'on appelle les cercles d'intimité. Dire la vérité aux autres ne veut pas dire que je vais exposer ma vie intime sur la place publique. Ce n'est pas ça, dire la vérité. Ce n'est pas ça, parler la vérité les uns aux autres. Ce n'est pas se mettre à nu avec tout le monde. Je dois respecter mes cercles d'intimité. Il y a des choses que je partage avec mon épouse et que je ne partagerai pas avec vous. Et j'ai aucun souci avec ça. Il y a des choses que je vais partager avec des amis très proches et que je ne partagerai pas de manière publique. Et il n'y a aucun souci avec ça non plus. Parce qu'on est fait avec des cercles d'intimité qui sont différents. Et on doit respecter ça. Et donc c'est le premier équilibre à avoir quand on dit parler avec vérité les uns aux autres. Ce n'est pas qu'on est encouragé à prendre notre vie et à la mettre à nu au milieu de la place publique en disant « Regardez tous, tout ce qu'il y a dans ma vie. » Ça, c'est le premier extrême vers lequel il ne faudrait pas aller quand on dit parler avec vérité. Mais le deuxième, celui qui est de l'autre côté, ce serait de vivre les uns et les autres avec des masques. Des masques de faux bonheur, ça arrive, ou des masques de faux « j'ai des difficultés ». Dans les deux sens. Dans les deux sens. Et d'un côté, parler avec vérité, c'est pas tout exposer, mais de l'autre côté, parler avec vérité, c'est donc ne pas mettre des masques devant nous et être capable de parler les uns les autres de ce qu'on vit sur notre cœur. On se pose beaucoup la question le matin quand on arrive, comment ça va ? Comment ça va ? Cette question-là, elle tue, mais comment ça va ? Et on répond tous à cette question-là. Et comment on y répond ? Hein ? Voilà. À ce moment-là, on n'est pas obligé de déballer toute notre vie. Mais je crois que l'honnêteté, c'est aussi de dire, si on traverse une bonne période, si tout va bien, ou si on traverse une difficulté. Écoute, aujourd'hui, mitigé, j'ai eu une semaine un peu difficile, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je suis entouré. Voilà. On n'est pas obligé de dire plus que ça, mais d'être honnête. D'être honnête. Moi, je serais embêté ce matin si j'ai salué des gens, j'aurais demandé « comment tu vas ?» que les personnes m'ont dit « ça va !» et puis qu'ils sont repartis avec leur sac à dos de problèmes et que j'ai même pas eu l'opportunité juste de bénir cette personne-là. C'est ça le corps. C'est ça, c'est s'édifier les uns les autres. Donc, ne pas tout donner à tout le monde et ne pas porter des masques qui tiennent les autres à l'écart. Il y a aussi deux autres dimensions dans le fait de parler avec vérité. On va prendre l'image du corps là-dessus. Si on fait un massage à la tête, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y en a qui ne supportent pas d'ailleurs, mais j'adore ça. Et quand on me fait un massage à la tête, donc petit avis à ceux qui sont intéressés pour me faire du bien. Donc si vous me faites un massage à la tête, ça va me faire du bien jusqu'aux orteils. Je vais avoir des fourmis, je vais avoir un fourmillement dans le corps. Je ne sais pas si vous connaissez ça, hein, quelque chose qui nous fait du bien là, et puis ça va vraiment jusqu'au bout. C'est bête parce qu'on gratte ici et puis ça fait du bien aux orteils. Et puis c'est la même chose aussi, je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Moi, je suis musicien, mais il y a des fois, j'écoute des musiques et il y a des moments dans cette musique-là qui me font hérisser les poils. J'ai le corps tout entier qui vibre et pourtant, je vous assure qu'à ce moment-là, ma cuisse, elle n'est pas en train d'entendre ce qui se passe à la musique, c'est mon oreille qui l'a entendu. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, c'est que le corps partage le bien-être. Il ne le retient pas. L'oreille, elle ne garde pas le bien-être de cette musique pour elle. Elle le communique au corps. Le massage à la tête communique aussi au reste. Et donc, le corps partage le bien-être qu'il reçoit. Et puis, de la même manière, une entaille au doigt, par exemple, elle va nécessiter d'envoyer un message pour que dans la moelle épinière, on fabrique des plaquettes qui vont venir faire que ça arrête de saigner et que ça colmate. Et ce n'est pas le doigt qui doit être équipé d'un système qui fait qu'il va se soigner tout seul. Il a besoin que le corps fabrique des plaquettes. De la même manière, quelque chose qui peut-être nous parlera davantage, si on a un bouton de moustique sur la cuisse, La cuisse n'est pas équipée d'un bras automatique qui va venir gratter ce bouton de moustique. Elle a besoin de la main, d'accord ? Donc c'est bête comme image, mais ça nous rappelle aussi comment, à l'intérieur du corps, on partage le bien-être, mais on partage aussi les difficultés. Le corps lui-même nous enseigne là-dessus. Et l'image que Paul a prise pour parler de l'Église, pour parler d'une communauté, c'est « vous êtes un corps ». Donc partagez le bien-être ensemble, partagez ce qui est bon. Pourquoi ? Parce que ce qui est bon pour moi va te faire du bien à toi. Et puis ce qui est difficile pour moi, je vais trouver des réponses là. Donc partageons ça. C'est cette dimension-là dans le parler avec vérité, dans l'amour, c'est cette dimension-là aussi qui est derrière. Hein, parce qu'on est plus, pour moi, hein, on est plus qu'un club, on est plus qu'une association, on n'est pas juste là pour se retrouver parce que c'est sympa et qu'on chante quelque chose, on est là parce qu'on est un corps, on vit. Il y a une dimension qui est beaucoup plus grande. Dans le parler avec vérité, dans l'amour aussi, il y a deux choses que j'aimerais mettre, je vous ai mis une petite gomme, c'est des préalables. On a le droit à l'erreur. Tout le monde. On a tous le droit à l'erreur. Et quand je pense au droit à l'erreur, c'est on a le droit d'être imparfait. On a le droit de ne pas comprendre. On a le droit de mal exprimer quelque chose. Et ça, c'est très important. Si on se dit qu'on va commencer à parler avec vérité les uns aux autres, on doit aussi se dire qu'on a le droit à l'erreur. Le droit que l'autre, il n'ait pas exprimé exactement comme il aurait fallu ce qu'il a exprimé. Mais on va effacer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ou le droit de mal recevoir. On a le droit à l'erreur. Et en parallèle de ça, on a l'obligation de ne pas être trop facilement blessable. Et ça, je vous assure que c'est des leitmotifs qu'il faut se rappeler. C'est des décisions. Est-ce que je suis facilement irritable ? Est-ce que je suis facilement blessable par quelqu'un ? Est-ce que si quelqu'un dit quelque chose un peu de travers, je peux le prendre mal ? Et ça marche aussi dans nos foyers, ça marche aussi dans les couples. Est-ce que je suis facilement blessable ? Jésus, on lui a craché dessus. On l'a humilié. Est-ce qu'il a été facilement blessable ? Non. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont le droit à l'erreur. Moi, je suis venu pour racheter pour ces gens-là, justement. Jésus nous a enseigné cette voie-là. Donc laissons le droit à l'erreur aux autres et acceptons nous aussi de ne pas être facilement blessables. Il y a des choses qui blessent et ça je ne veux pas l'enlever. Oui, il y a des choses qui blessent, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a des choses, mais ne soyons pas trop facilement blessables. Par rapport à ce sujet-là notamment, j'aimerais vous laisser une image sur notre manière de fonctionner et de travailler ensemble. Non, ce n'est pas d'aller chez McDo. L'image que je voudrais vous donner, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, le feedback en mode sandwich. Vous connaissez le feedback en mode sandwich ? Non ? Ah bah super, je vais vous apprendre ça. Donc, c'est la question de comment est-ce que je vais faire un retour à quelqu'un sur quelque chose qui s'est passé. On est tous confrontés à ça, hein ? On parle tous les uns avec les autres, on a tous besoin d'aller voir quelqu'un et de se dire comment je vais lui dire que... voilà, vous avez compris. Donc le feedback en mode sandwich, c'est simple. C'est il y a deux tranches de pain et il y a quelque chose au milieu. Donc, on commence par une tranche de positif, une tranche de choses qui sont bonnes, une tranche de choses qu'on aime. Et on n'est pas hypocrite, on doit vraiment aller chercher quelque chose qui est vrai, parce que tout n'était pas mauvais dans ce que la personne a dit. Il y a forcément quelque chose de bon. Donc, on donne du positif, d'abord. Ensuite, on glisse avec vérité le jambon, le steak, il y a peut-être de la salade, il y a peut-être un empilage de beaucoup de choses, effectivement. Mais ça, on les met au milieu. On les pose là, sur le sandwich. Dans l'amour, j'insiste. On parle avec vérité dans l'amour. Si on enlève l'amour, c'est comme enlever l'huile du moteur. Il peut être le meilleur du monde, il va casser. Dans l'amour, c'est le préalable. Et donc ça, sur le sandwich, c'est le deuxième truc qu'on pose. Tout ce qu'on a à encourager de changer. Voilà. Ça, par contre, quand tu as fait ça, voilà, ça, c'était pas forcément juste parce que tac, 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 tac. Et on ne reste pas là-dessus. Le sandwich, on le referme. Ce n'est pas une tartine, c'est un sandwich. Et donc, il y a une tranche de pain au-dessus. Et sur cette tranche de pain, on finit par quelque chose de positif. Parce qu'on ne laisse pas la personne avec quelque chose où on a détruit des choses dans sa vie, où on a enlevé, où on a corrigé des choses. Derrière, on amène l'amour. Derrière, on amène l'ouverture. Derrière, on amène une porte de sortie. Et ça, c'est vraiment capital. Si on apprend à communiquer les uns et les autres, et je me le dis à moi le premier, je ne suis pas très très bon pour ça, vous le savez, mais parlons en mode sandwich, s'il vous plaît. Mettons du pain, du jambon, et puis du pain. C'est vraiment super important. La Bible, elle nous dit aussi qu'on doit rechercher la paix par-dessus tout. Alors ça veut dire qu'il y a peut-être certains sujets sur lesquels on a besoin de faire quelques compromis et on doit savoir lâcher. On n'est pas obligé d'aller chercher toutes les choses. Pour grandir, on peut lâcher certaines choses. Voilà, je vais avancer un peu plus vite. Le deuxième point sur encourager, c'est apporter des matériaux. Alors, pourquoi je vous dis apporter des matériaux ? Bien, toujours sur notre passage d'Éphésiens 4, versets 15 et 16, Paul nous exhorte à dire la vérité dans l'amour. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même de l'amour. Et ce, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, elle nous indique une chose, c'est qu'il y a plusieurs parties, qu'il y a plusieurs activités et qu'elles n'ont pas toutes la même fonction. Et si elles n'ont pas toutes la même fonction, elles n'ont pas toutes besoin des mêmes choses. Oui, je l'ai mis sur. Elles n'ont pas toutes besoin des mêmes choses. Et donc, on doit être des étudiants les uns des autres. C'est quoi ton activité à toi? C'est quoi ta fonction à toi? Alors, on n'est pas résumé à des activités, on n'est pas résumé à des fonctions. Mais en fait, de quels matériaux tu as besoin? De quoi tu as besoin, toi? Là, je fais ce matin un message qui est général à tout le monde, mais il faudrait en faire un pour chacun. Parce qu'on est tous différents et parce qu'on a tous une maturité qui est différente. Il y a des choses qu'on a compris, d'autres qu'on a moins comprises, des choses dont on a besoin pour aujourd'hui, des choses dont on aura besoin demain. Et nous devons être des étudiants les uns des autres pour se dire « mais qu'est-ce que je peux apporter comme nourriture, comme matériel ?» J'ai 5 pains et 2 poissons, mais je vais les donner. Dieu multiplie. Comme quand pour Israël, dans la construction du temple, les nations ont apporté les matériaux qui étaient nécessaires. Tous les matériaux n'étaient pas en Israël quand ils ont construit le temple. Tout n'était pas là, sur place. Ils ont eu besoin de faire venir de partout, dans des quantités astronomiques. Et si les gens n'avaient pas amené les matériaux, le temple en Israël n'aurait pas pu être construit de cette manière-là. Et on a besoin. Moi, je n'ai pas tous les matériaux pour ma vie. Je ne les ai pas tous. Et loin de moi cette prétention de dire « je suis autosuffisant » et aucun d'entre nous, nous sommes autosuffisants. On a besoin des matériaux les uns des autres. Donc soyons attentifs à ça. Qu'est-ce que j'ai donné comme exemple? Est-ce que je peux prendre du temps? Ça y est, je suis perdu dans mes notes, c'est la fin. Est-ce que je peux prendre du temps? Est-ce que je peux amener du fun? Est-ce que je peux donner un enseignement? Est-ce que je peux communiquer un verset de la Bible? Est-ce que je peux communiquer de la louange? Est-ce que je peux communiquer juste une oreille qui écoute? Est-ce que je peux communiquer une bénédiction, le fait de prier? Est-ce que je peux communiquer une prophétie, une parole de connaissance, de parler la sagesse de Dieu sur cette personne-là? Il y a 1000 choses qu'on peut faire et ma liste elle n'est pas exhaustive. Et donc, soyons prompts à amener des matériaux. Et pourquoi on doit amener des matériaux? Pour cette raison-là. Jésus, il ne nous a pas dit « annoncez que je suis le salut du monde » et puis point. Faites de toutes les nations des croyants. Non. Il dit « faites de toutes les nations des disciples ». Et la dimension de disciple, elle est différente de la dimension de croyant. Si je suis croyant, il me suffit simplement de croire. Et puis c'est fini. C'est bon, je crois. Dieu, il n'a pas dit que tu crois, il a dit que tu croisses. Et c'est ça la différence, et la dimension du disciple, c'est celle-là. C'est que la dimension du disciple, il est appelé à croître, alors que le croyant, il est juste appelé à croire. Et donc, un disciple, pour croître, il a besoin de ces matériaux-là. Et c'est pour cette raison-là que c'est notre responsabilité d'amener des matériaux, et pas simplement de faire une communauté de croyants, mais une communauté de disciples que nous allons édifier. Donc on doit investir du temps, on doit investir des ressources nécessaires. Et pour que ces nouveaux disciples qu'on fait, à leur tour, continuent de prendre soin d'autres. Il y a une dimension de modèle aussi là-dedans, il y a une dimension de transmission. Joël nous en avait parlé là-dessus. La question c'est, à qui est-ce qu'aujourd'hui vous apportez des matériaux dans cette communauté? À qui? À qui j'apporte aujourd'hui des matériaux? Je culpabilise personne. Je réveille une question chez nous. À qui j'apporte des matériaux ici? À qui? À qui précisément? Et de qui je reçois des matériaux aujourd'hui pour ma vie? Soyons connectés là-dessus. Soyons connectés sur cette économie spirituelle d'amener des matériaux, de recevoir des matériaux. On en a besoin. On en a besoin. Alors ça demande bien sûr que ces matériaux-là, ils soient amenés en parlant avec vérité, dans l'amour. Ce qu'on a dit juste avant, c'est important que ce soit fait comme ça. Et j'aimerais par rapport à ça, parler rapidement du modèle de Paul, qui est le même modèle que Christ a démontré avec ses disciples, mais j'aimerais parler de celui de Paul. Il y a une église qui a donné énormément de fil à retordre à Paul, c'est l'église de Corinthe. C'était le bazar, mais un bazar sans nom, innommable. Ils étaient pleins de dons, ils avaient une vie de l'esprit qui était abondante, mais en même temps, au milieu de ça, il y avait un péché qui était très abondant, et ils faisaient n'importe quoi. Et je trouve que c'est intéressant de regarder comment Paul écrit aux Corinthiens. Il leur a écrit deux fois, parce qu'il a eu besoin d'écrire deux fois pour cadrer les choses. Regardez comment Paul a cadré ça dans 1 Corinthiens 1, 4 à 9. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il y a du pain là, il n'y a pas du jambon, il y a du pain. Et c'est un bel exemple que Paul nous donne. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça? Qu'est-ce qui lui fait approcher Corinthe comme ça? C'est simplement que Paul avait compris la grâce de Dieu. Il le dit, je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Et Paul regardait l'église de Corinthe au travers des lunettes de la grâce. C'est au travers de cette perspective-là qu'il regardait l'Église. Ce n'est pas au travers d'une perspective où il devait reprendre durement le péché, mais il préfère proclamer la grâce de Dieu sur cette Église, il préfère proclamer l'appel qu'il y avait sur cette Église, il préfère proclamer ce qui a été planté dans cette Église et qui doit se réveiller à nouveau, plutôt que de dire « là, ce n'est pas bien, là, ce n'est pas bien ». Là, c'est pas bien. Et donc ça, c'est un modèle de l'encouragement de Paul. Paul qui parle en mode sandwich. Derrière, il a cadré des choses. Mais le préalable, il a posé l'amour, il a posé la grâce. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on regarde les uns et les autres? Est-ce qu'on met, nous aussi, ces lunettes de la grâce quand on se regarde les uns les autres? Et surtout, surtout, quand on doit aller encourager quelqu'un, quand on doit aller édifier quelqu'un. Ces lunettes-là, elles sont primordiales. Les lunettes de la grâce. Et enfin, dernier point sur encourager qu'on a dans ce passage, encourager, c'est édifier l'autre. Voilà, c'était le titre de mon message, encouragez-vous, édifiez-vous. Alors toujours dans notre passage d'Éphésiens 4, 15 et 16, après tout ce qu'on a dit, le fait de parler avec vérité dans l'amour, le fait d'amener les matériaux les uns aux autres, le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Ce n'est pas juste une relation entre Dieu et moi, ce n'est pas juste une relation verticale. Il n'est pas dit dans ce passage-là qu'ensuite, Jésus va édifier chacun d'entre nous dans l'amour. Il est dit, le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Et ça parle de cette responsabilité dont j'ai parlé juste avant, de déborder les uns sur les autres, etc. etc. Et donc l'encouragement, c'est ça que j'aimerais poser maintenant, il intervient dans un contexte de... Oh, c'était pas mon point. Bah, tant pis. L'encouragement, il intervient dans un contexte de croissance du corps. Il intervient dans ce contexte-là, dans le contexte de la croissance. Il n'intervient pas dans un contexte d'être gentil. Et c'est ça que j'aimerais poser dans ce troisième point, c'est que encourager, ce n'est pas juste être gentil, c'est pas lever des pouces bleus, c'est pas donner des smileys, c'est pas juste dire « waouh, ouais, c'est super », alors qu'en fait, on aurait des choses à dire. L'encouragement, c'est de l'édification. Paul, il dit, je parle beaucoup de lui ce matin, mais Paul, il dit, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice. C'est ce même mot, exhorter, encourager, selon les traductions, c'est dit différemment, mais c'est la même chose. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice. C'est pas juste, ouais, vous êtes super, je vous encourage. Non, c'est je vous encourage à quelque chose. Je vous encourage à grandir. Je vous encourage à changer. Je vous encourage à comprendre. Je vous encourage à offrir. Je vous encourage à faire. Je t'encourage en plantant, en t'amenant des matériaux. C'est ça, l'encouragement. Et ce n'est pas juste être sympa les uns avec les autres. On n'est pas là pour bâtir une communauté de gens sympas. On est déjà sympas. On est là pour se construire les uns les autres, pour s'édifier les uns et les autres. Et donc l'encouragement, il intervient dans ce contexte-là. J'aimerais vous passer, si elle se démarre toute seule, cette petite vidéo d'un entraînement de l'armée américaine. Donc ils sont 9 à devoir passer un mur de, je pense, 4 mètres à peu près. Ouais, je pense à peu près 4 mètres. Je trouve que leur méthode est assez interpellante. En 30 secondes, ils sont 9 à être passés de l'autre côté de ce mur. Et voilà, même le dernier. Et je trouve que cette vidéo-là, elle est interpellante. Elle est interpellante. Ils sont 9 face à un mur et ils ont une méthode qui consiste à ce que chacun est soit poussé, soit tiré par quelqu'un d'autre. C'est pas individuellement, ils vont tous développer des super compétences qui leur rendent capables de sauter, de s'accrocher à un mur qui est haut de 4 mètres et de passer de l'autre côté. La démarche n'est pas de dire on va développer l'excellence individuelle. La démarche, elle est on va travailler l'encouragement, on va travailler l'édification de l'équipe pour que l'équipe s'appuie sur l'équipe et que les uns et les autres puissent ensemble passer. S'ils avaient travaillé l'excellence, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible avec des pactages qu'ils avaient. Il y en a quelques-uns, vous avez vu, ils avaient des gros sacs à dos. C'est quasiment impossible que ces mecs-là, ils sautent, qu'ils attrapent un mur à 4 mètres de haut et qu'ils puissent passer. On a besoin les uns des autres, et cette image-là, elle nous le montrait. Ce que je voudrais poser ce matin, pour cette fin de message, au travers de ce qu'on vient de voir là, c'est que l'encouragement, il crée des plateformes. L'encouragement, il crée des plateformes. L'encouragement, c'est là que je disais, c'est pas juste être gentil, c'est que mon encouragement, il va poser une plateforme dans ta vie qui va faire que tu vas pouvoir t'appuyer sur cette plateforme pour aller plus loin. Tu vas pouvoir t'appuyer sur cette plateforme pour aller plus haut. Et c'est ça le véritable encouragement. C'est ça la dimension de l'encouragement qui édifie, l'encouragement qui construit. On crée des plateformes, on les bâtit, on amène les matériaux dont il y a besoin pour que l'autre puisse grandir. Et on est tous concernés là-dessus. Il n'y a pas deux camps dans l'Église. Il n'y a pas ceux qui encouragent, hein, et puis ceux qui sont encouragés. Il n'y a pas ces deux camps-là. Il n'y a pas « Ah ben moi je suis nouveau ici, alors moi je fais partie de ceux qu'on encourage. » Oh toi, tu es un ancien, alors tu fais partie de ceux qui encouragent les autres. » Je vous assure que quel que soit notre âge, quel que soit notre âge de conversion, quel que soit ce qu'on traverse, notre situation professionnelle, notre situation familiale, quoi que ce soit, à n'importe quel moment, on a besoin d'être encouragé. Et on a besoin d'encourager en tout temps. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour être encouragé. On a besoin les uns des autres, vraiment. Et on a besoin de créer des plateformes dans les vies des uns et des autres en parlant avec vérité dans l'amour, en apportant des ingrédients, des matériaux, et en prenant soin d'édifier, d'avoir cette volonté de créer des plateformes dans la vie les uns et des autres. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on veut le faire? Parce que c'est facile de le dire, c'est facile de le partager, c'est souvent plus difficile de le faire. Et ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on puisse peut-être juste dire « Ok Seigneur, ensemble, on prend l'engagement. On prend l'engagement de faire du sandwich. Ensemble, on prend l'engagement de créer des plateformes. Ensemble, on prend l'engagement de parler avec vérité dans l'amour, d'être vrais les uns avec les autres. On prend l'engagement d'apporter les matériaux dont l'autre a besoin, d'être les étudiants les uns des autres. On prend le temps d'édifier l'autre, de créer une plateforme dans sa vie. Ça vous va ? Alors, ce que je vous propose, c'est juste qu'on se lève dans ces cas-là, et puis je vais prier. Et puis on va s'engager mutuellement à ça. Oui Seigneur. Merci pour ta parole parce qu'elle est vraie Seigneur. Elle est vraie, elle est véritable Seigneur. Merci pour ce modèle que tu nous as laissé avec tes disciples Seigneur. Merci pour le modèle de Paul que tu nous as laissé Merci pour ce modèle d'édification, Seigneur, ce modèle de croissance que tu nous as laissé. On veut ce matin saisir notre responsabilité d'édifier les uns les autres, Seigneur. On veut s'engager ce matin à parler avec vérité et à parler dans l'amour les uns aux autres, Seigneur. On veut s'engager à être les étudiants les uns des autres, Seigneur, et à apporter le temps, l'enseignement, la louange, l'encouragement, tous ces ingrédients, tous ces matériaux qui vont faire que l'autre va pouvoir grandir, Seigneur, et s'épanouir. Et on veut aussi prendre l'engagement, Seigneur, de créer des plateformes, d'être conscient que nous créons des plateformes dans la vie les uns des autres, Seigneur, pour que notre corps grandisse vers la stature parfaite qui est Christ. Parce que la finalité de tout ça, Seigneur, c'est ta gloire, Seigneur. Et si ce corps, il croit et qu'il grandit, Seigneur, c'est pour ta gloire, ô Dieu. Alors on s'engage et on te demande de faire ton œuvre au travers de ton esprit, Seigneur, pour changer nos habitudes aussi et libérer nos cœurs dans cette dimension d'un encouragement qui édifie, le véritable encouragement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.